Ce soir, on découvre avec stupéfaction que des écureuils démoniaques ne font pas forcément de bons ouvriers de construction, et que vous devriez vous occuper vous-même de vos problèmes de jardinage. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 57, L'araignée noire, un roman suisse du 19e siècle, écrit par Jeremiah Gotthelf, prêtre de son état. Le récit original comprend un long récit cadre, mais je commencerai ici directement à la légende historique qui constitue le cœur de l'œuvre. Dans le creux d'une des innombrables vallées alpines de Suisse, se trouve un petit village. Personne ne remarquerait la moindre différence avec un autre village, d'une autre vallée, mais une étrange histoire a traversé les siècles là-bas. On peut voir, parmi les plus vieilles maisons, une grande bâtisse bien entretenue, mais dont le montant de la grande fenêtre de façade semble bien plus vieux que le reste de la construction. Ce montant de bois, planté d'un énorme clou, est là depuis plus de 800 ans, à l'époque où ces terres appartenaient aux chevaliers de l'ordre teutonique. Occupé à combattre en terre païenne, un chevalier de l'ordre ne se présentait comme gouverneur que lorsque sa sainte campagne l'avait trop épuisé, et il ne restait jamais longtemps. Ainsi, les serfs des environs voyaient aller et venir des seigneurs, sans cohérence l'un avec l'autre, et devaient composer tant bien que mal avec ce que Dieu jetait sur leur chemin. Mais aucun ne fut jamais aussi cruel que Hans von Stauffen. Le Seigneur se présenta un jour à la fin de l'hiver, alors que les semences approchaient. Dès son arrivée, il réclama que les paysans lui construisent un château digne de l'ordre. Il ne semblait pas savoir qu'en cette saison, le travail au champ était primordial si le peuple ne voulait pas mourir de faim pendant l'hiver. Et son expression n'invitait pas à le lui expliquer. La plupart des châteaux auraient été construits près d'une route ou d'une rivière, mais von Stauffen ajouta au désespoir des paysans en annonçant que son château trônerait au sommet de la colline. Pourtant, il était magnanime. Il leur laissait jusqu'à demain pour commencer. Tous les hommes des environs furent réquisitionnés pour l'ouvrage. Et les hommes du Seigneur s'assuraient que chacun tienne le rythme. Si par malheur un vieillard épuisé cherchait un répit à l'ombre, ou ralentissait même l'allure, le fouet lui rappelait rapidement quel genre d'homme était Hans von Stauffen. Le printemps passa, et l'été ne vit s'épanouir dans les champs que les herbes folles. Passèrent l'automne, l'hiver, et les paysans et leurs familles survécurent à peine sur les réserves de l'année précédente. Mais seules les fondations du château étaient terminées. À nouveau, les serfs travaillèrent durant toute la saison des semences. Cet hiver-là fut plus rude. La faim se fit atrocement sentir. Les visages se creusèrent. Mais finalement, à l'approche du printemps, la dernière pierre fut posée. L'ouvrage était terminé. Ils pourraient enfin œuvrer au champ cette année. Les paysans annonçaient la nouvelle à leur famille lorsqu'un messager arriva au village. Le chevalier von Stauffen les conviait tous au château le soir même. La nouvelle fut accueillie avec incertitude, mais il paraissait évident aux paysans que le seigneur voulait les remercier pour le travail accompli. Et cela leur paraissait si évident qu'ils finirent par y croire. Le soir venu, ils se mirent en route avec espoir. Ils escaladèrent la pente nue de la colline et parvinrent dans la cour du château. Ils patientèrent longtemps là, sous les moqueries des serviteurs. Et quand on les fit entrer, ils patientèrent encore. Face à eux, de grandes tables étaient dressées, et Hans von Stauffen dévorait un véritable festin en compagnie de ses chevaliers. Les paysans se tenaient à l'entrée du hall en silence, se tassant le plus près possible de la porte, chacun essayant de se cacher derrière son voisin. Les nobles ne leur prêtaient aucune attention et continuaient à rire et à échanger les récits de leurs exploits en terre païenne. Finalement, le chevalier Von Stoffeln se leva et s'adressa aux paysans. Il les félicita d'un ton affable pour leur labeur, mais ces mots sonnaient comme ceux qu'un chasseur adresse à son meilleur limier. D'un ton plus raide, il poursuivit. « Ce château est remarquable, mais il est planté seul au sommet d'une colline nue, et l'été arrive à grands pas. Il n'est pas acceptable pour des chevaliers de l'ordre d'escalader une pente si raide sous le soleil brûlant. Il faut donc désormais planter une allée d'hêtres pour ombrager le chemin. Évidemment, les arbres devront être adultes et de bonne taille. Je n'attendrai pas que les arbustes poussent. Je vous laisse un mois, ce sera suffisant. Mais les premiers arbres devront être plantés dans la semaine. Maintenant, il y a de la nourriture et de la boisson pour vous. Fêtez la complétion de votre œuvre. » La mention d'un repas laissa penser à l'un des paysans que leur seigneur pourrait se montrer compatissant. Il entreprit donc de l'instruire, timidement, du matériel, des bêtes et du temps nécessaire pour un tel chantier. Il mentionna leur propre champ et l'importance de pouvoir y travailler cette année, sous peine d'une véritable famine dans les semaines qui venaient. S'adresser ainsi à son seigneur embarrassait profondément le pauvre paysan, qui n'osait pas le regarder en face. L'eût-il fait, il aurait pu voir qu'au premier mot, le teint du chevalier avait viré au pourpre et que la colère raidissait son échine. Lorsque le paysan se tut, les chevaliers ricanaient et Hans von Stoffeln fulminait. Sur les terres où nous combattons pour la gloire du Seigneur, les paysans s'en tirent tout juste avec leur vie et en sont si reconnaissants qu'ils tombent à nos pieds. Mais ici, vous avez un toit, des terres à cultiver, un noble ouvrage à accomplir, et vous n'en êtes pas satisfait. Je vous ai donné un mois, et d'ici un mois, 100 êtres adultes borderont le chemin du château. Sinon, je vous fouetterai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un doigt de peau intact sur votre dos, et je lâcherai les chiens sur vos femmes et vos enfants. » Le seigneur reprit alors son repas sans plus prêter attention aux paysans. Aucun d'eux ne se sentait d'appétit, et ils partirent aussitôt. Deux chemins se croisaient au pied de la colline. Là, les hommes s'arrêtèrent, frappés de désespoir. Aucun ne voulait être le premier à porter la nouvelle à sa famille. Ils restèrent là, à se lamenter. Tout à leur chagrin, ils ne remarquèrent pas un homme qui s'approchait d'eux sur un coursier noir. Le chasseur était tout vêtu de vert, à l'exception d'une plume flamboyante plantée dans le chapeau qui gardait son visage pointu dans l'ombre. « Messieurs, quelle est la raison de votre état ?» Mais les paysans ne l'entendirent même pas. Il répéta sa question une seconde fois, sans plus de réponse. La plume de son chapeau parut alors se dresser furieusement, brûlant comme la flamme d'une forge. Un feu semblable s'alluma dans ses yeux sombres, et il lança. « Lorsqu'un malheur s'abat sur vous, et qu'un étranger s'enquiert à son sujet, vous devriez être plus prompt à lui répondre, de peur qu'une aide providentielle ne vous échappe par négligence. » À ces mots, le plus vieux des paysans releva enfin la tête vers l'homme en vert et lui raconta toute l'histoire. Avec un sourire malicieux, l'étranger leur annonça qu'il avait plusieurs équipes de travailleurs prêtes à entreprendre le chantier, pour un paiement des plus modiques. Les paysans n'en croyaient pas leurs oreilles. Si seulement ils pouvaient convenir d'un prix raisonnable avec l'étranger, ils pourraient à la fois échapper au châtiment du Seigneur et sauver leur famille de la disette. Le chasseur vert se régalait visiblement de leur soulagement lorsqu'il annonça son prix. Tout ce qu'il demandait en échange de ses services était un enfant non baptisé. Les paysans comprirent alors à qui ils avaient affaire, et ils fuirent aussi vite que leurs jambes leur permettaient, poursuivis par le rire du cavalier. Il leur lança à travers la nuit qu'il serait de retour dans 3 jours s'il changeait d'avis. Chacun fila s'enfermer chez lui et dut faire le récit de la soirée à sa famille. La mort dans l'âme, les villageois se couchèrent pour une nuit sans sommeil. Ils savaient qu'un sort terrible les attendait quoi qu'il arrive. Seule une femme, Christine, ne se laissa pas aller au désespoir. Elle n'était pas née dans la vallée, mais était venue là pour suivre son mari. Elle avait un tempérament fougueux, une langue acérée et des yeux sombres prompts à fustiger ceux qui la contrariaient. Et ce soir-là, justement, ses yeux transpercèrent son mari. Elle s'exclama que si cette bande de couards avait eu le courage de rester, ils auraient sûrement pu décider d'un autre prix avec le chasseur, ou au moins trouver un moyen de le berner. Elle fulmina ainsi jusqu'au matin. Les paysans se rassemblèrent alors et tentèrent de diviser le travail au champ et le chantier entre eux, afin que les terres ne restent pas nues une année de plus. Ils croyaient, ou plutôt voulaient se persuader, qu'en travaillant dur et en priant Dieu, ils parviendraient à éviter le pire. Le travail était atrocement difficile. Pour préserver les racines, il fallait d'abord creuser profondément tout autour de l'arbre, puis le coucher sans abîmer ses branches, et l'amener jusqu'à la colline. Les hommes travaillèrent d'arrache-pied et ils parvinrent à extraire 3 arbres de la forêt. Mais à la fin de la journée, les arbres n'avaient même pas dépassé le croisement. Ils se remirent à l'ouvrage le lendemain, mais le sort semblait s'acharner contre eux. Les bêtes trébuchaient, les harnais lâchaient, les essieux des charrettes se brisaient. À la fin du 3e jour, les hommes et les bêtes étaient à bout de force. 6 arbres attendaient au croisement. Et aucun effort n'avait pu les porter plus loin. Quand le soleil disparut à l'horizon, ses couleurs noyées dans de sombres nuages, les mots du chevalier Van Stoffen résonnaient dans tous les esprits. Mais de son côté, depuis 3 jours, Christine réfléchissait. Si le chasseur vert leur proposait son aide, pourquoi la refuser? Il trouverait bien un moyen d'éviter de lui livrer un enfant. Plus elle y réfléchissait, et plus elle se persuadait qu'elle saurait se montrer plus maligne que le diable. Au plus noir de la nuit, elle se mit en route vers le croisement. L'étranger ne mit pas longtemps à arriver. Ses yeux brillaient, et il s'adressa à Christine avec plus de délicatesse qu'on en emploie pour une reine. La femme se dit qu'il devait être possible de raisonner avec un tel homme, et plaida la cause de sa communauté. Le chasseur partit alors d'un rire charmant, et lui dit en souriant: un enfant non baptisé. Voilà le paiement que je demande. Pas plus, pas moins. Mais aucune femme du village ne donnera naissance dans le mois qui vient, s'exclama Christine. Je ne demande pas à être payé immédiatement. Le moment viendra bien assez tôt, ne vous en inquiétez pas. En entendant ça, Christine eut la certitude de pouvoir berner le diable. Après tout, que pourrait-il faire si, une fois le chantier terminé, les paysans refusaient simplement de lui céder l'enfant? Certaine de son coup, elle accepta le marché. Le chasseur l'invita à s'approcher pour sceller l'accord d'un baiser, et il posa ses lèvres sur la joue de la femme. Aussitôt, une décharge traversa sa mâchoire jusqu'à la moelle, comme si un fer chauffé à blanc la brûlait. La douleur la jeta au sol, et elle faillit perdre connaissance. Quand elle se releva, l'étranger avait disparu. Elle rentra chez elle et annonça qu'elle avait réglé le problème de l'allée des arbres. Elle expliqua comment elle comptait tromper l'étranger le moment venu, mais se garda bien de parler du baiser ou de la douleur qui commençait tout juste à s'estomper. Une certaine angoisse persista chez les paysans, mais le pacte avait été dans leurs pensées à tous, et sans oser l'avouer, ils trouvaient un certain soulagement dans l'idée que ce fut Christine qui les scellait à leur place. Une seule personne, une jeune femme, sanglotait silencieusement au fond de la pièce, le ventre serré de détresse. Le lendemain, un jeune berger accourut au village en criant que les 6 arbres avaient été plantés sur la colline. Pour la première fois en 2 ans, l'allégresse se répandit dans le village. Les hommes qui devaient s'occuper des arbres œuvrèrent plus aisément que jamais. La terre était meuble, les arbres se couchaient presque de même, et les bêtes les tiraient d'un bon pas sans jamais trébucher. Sans la moindre peine, ils amenèrent plusieurs arbres jusqu'au croisement, et les laissèrent coucher là. Au matin, ils étaient debout sur la colline. Plusieurs curieux cherchèrent à voir par quel miracle le chasseur vert parvenait à dresser ces arbres si vite. Mais chaque fois que quelqu'un tentait de jeter un œil par une fenêtre ou une fente du bois, un miasme empoisonné saisissait le voyeur et faisait enfler son visage à tel point que les yeux et les oreilles disparaissaient dans les bourrelets de chair. Hans von Stauffen lui-même dépêcha deux de ses chevaliers une nuit pour percer le secret des paysans. Les deux hommes furent retrouvés à moitié morts dans un fossé. Un soir, un homme du village voisin fut pris d'une toux si vicieuse que son jeune fils, un enfant qui commençait à peine à parler, crut que son père était au bord de la mort. Il se précipita dans la nuit pour quérir le prêtre, inconscient, dans son innocence, du danger qui le menaçait. Arrivé au croisement, il entendit alors des bruits terrifiants qui le poussèrent à se cacher. Dans la nuit, un homme à la barbe de feu faisait claquer un fouet d'épines sur le dos d'un bouc noir démesuré. Sur son chapeau dansait une flamme incandescente qui semblait un éclair de feu. Autour de lui s'activait toute une troupe d'écureuils enflammés qui traînaient les arbres vers le coteau de la colline. Sans demander son reste, l'enfant fila chez le prêtre et ne parla à personne de sa rencontre. À la fin de la troisième semaine seulement, le dernier arbre fut planté, et l'étranger ne réapparut pas. Mais Hans von Stauffen et ses chevaliers n'empruntèrent jamais la belle allée ombragée. Une terreur sans nom les saisissait dès qu'ils s'engageaient sous les arbres. Il aurait bien demandé aux paysans de les arracher s'ils n'avaient craint les moqueries de ces hommes. De leur côté, les villageois avaient terminé les semences, le ciel était tendre, et tout s'annonçait au mieux. Mais au fond de leur cœur, ils gardaient une peur sourde de voir arriver l'étranger. Le ventre de la jeune fille qui sanglotait le soir de l'annonce de Christine s'était arrondi, et elle attendait, étouffée d'angoisse. Finalement, alors que l'enfant arrivait, sa grand-mère se précipita chez le prêtre pour confesser le pacte. L'homme était un clerc très saint, comme on en croise rarement. Sa foi était profonde, autant que sa volonté de protéger les hommes du malin. La révélation le choqua profondément, mais il ne perdit pas de temps en mots creux. Il attrapa ses armes et se précipita vers la maison de la jeune fille. Dans le ciel, une tempête grondait. Le prêtre traça un cercle d'eau bénite tout autour de la maison, puis entra en prière pendant le reste du travail. Lorsque l'enfant se présenta, ce fut lui qui le prit en premier et lui donna le sacrement du baptême aussitôt. À l'instant où l'enfant entra sous la protection de Dieu, une lame brûlante transperça la joue de Christine, juste à l'endroit où le chasseur l'avait embrassée, alors que la foudre s'abattait sur le village. La douleur était atroce, la femme avait l'impression que ses chairs, ses os, ses dents fondaient et s'écoulaient sur elle comme de l'acier en fusion. Mais contrairement à la nuit du pacte, la douleur persista. Pendant ce temps-là, les villageois organisaient les réjouissances. Ils avaient trompé le chasseur. Le prêtre eut beau leur dire que le temps n'était pas à la fête, personne ne l'écoutait. Ils étaient sauvés. Ils n'avaient qu'à s'assurer de baptiser tous les enfants dès l'instant de leur naissance, et le chasseur vert n'aurait plus aucun pouvoir sur eux. Le reste de la nuit s'épuisa en fêtes et en banquets, mais la douleur ne quittait plus Christine. Sur sa joue, un point noir minuscule était apparu, mais personne n'avait envie de prêter attention à ses problèmes en cet instant. Dans les jours qui suivirent, la peur quitta lentement les paysans, et bientôt, les récoltes occupèrent plus leur esprit que le chasseur. Sur la joue de Christine, le point noir enflait. Un nouvel enfant vint au monde, baptisé aussitôt par le prêtre. Si c'était possible, la souffrance devint encore plus horrible. La tache gonfla, elle avait maintenant la taille d'un œil. Quatre longs traits déchirèrent sa chair de chaque côté, et une tête apparut. C'était une sombre araignée qui suppurait de venin sur la joue de la femme. La douleur était insupportable, Christine était prête à se lacérer le visage pour la faire cesser. Au fond d'elle, elle savait que le chasseur vert ne se laisserait pas spolier de son dû, et qu'attendre ne faisait qu'accroître sa colère. Elle commença à aller voir ses voisins, à les avertir du danger, mais aucun d'eux ne voulait l'entendre. Elle avait passé le pacte, elle n'avait qu'à se débrouiller désormais. Son propre mari lui jeta que ses problèmes n'intéressaient qu'elle, et qu'elle ferait mieux de les gérer sans déranger les autres. Un nouvel enfant devait venir au monde. Seule, À moitié folle de douleur, Christine alla supplier la future mère de laisser l'enfant au chasseur vert. Les hommes la jetèrent à la rue. On alla chercher le prêtre. Pendant le baptême, la douleur se fit plus forte que jamais. Un orage terrible grondait dans le ciel et le tonnerre couvrait à peine les hurlements hystériques de Christine. Sur sa joue, l'araignée battait, enflait. Les pattes s'agitèrent, le corps s'arracha à la peau et la créature se détacha de Christine. Dans ses cheveux, sous ses vêtements, le long de ses bras, de ses jambes, de sa gorge, Christine sentit des centaines, des milliers de pattes velues courir sur sa peau. Une vague noire et poisseuse partit de la femme et se déversa dans le village. Les araignées se dirigèrent vers l'étable attenante à la maison. Le bétail se mit à ruer, braire, meugler, hurler. Un tapage qui rivalisait avec la tempête se déchaîna, attira tous les paysans du village. Puis, un à un, les cris se turent dans l'étable. Les araignées plantaient leurs crochets suintants de poison dans la chair des animaux. De l'écume leur montait à la gueule, leurs yeux s'injectaient de sang, et ils s'effondraient, morts. Dans les jours qui suivirent, les araignées se répandirent dans le village, semant la mort d'une étable à l'autre. Tout le bétail du village menaçait d'y passer. Peu importait à quel point on les enfermait, ou si on les emmenait dans les pâturages les plus éloignés. Les créatures s'immisçaient entre les planches, sous la terre, et jaillissaient toujours là où se trouvaient les bêtes. À nouveau, la ruine et la famine menaçaient les villageois. Ils se rassemblèrent un soir, et lentement, sans que personne n'énonce clairement le fond de sa pensée, ils arrivèrent ensemble à la conclusion que la salvation d'un seul enfant valait bien la survie de tout le village. Un enfant était encore à naître, le second de la jeune femme qui avait sangloté la nuit du pacte. Son mari déclara que c'était là une affaire honteuse et qu'il ne voulait rien en savoir. À la naissance de son fils, il irait chercher le prêtre. Mais il n'était pas obligé de se presser. Il ne serait pas responsable de ce qui arriverait pendant qu'il était en route. Personne ne parla de ce qui s'était dit ce soir-là. Mais la jeune femme sentait que quelque chose n'allait pas, dans les regards que lui jetaient les autres villageois, dans le calme qui avait saisi les araignées. Au fond de son cœur, elle savait ce qui avait été décidé. Lorsqu'elle sentit les contractions arriver, elle avait près d'elle les deux seules personnes en qui elle avait confiance. Sa vieille grand-mère et son mari. Dans son esprit, ce dernier était son seul rempart. Mais c'était aussi le seul qui pouvait aller chercher le prêtre. Les deux femmes se retrouvèrent donc seules. Dehors, elles entendaient les murmures d'une foule qui se rassemblait. Puis, la jeune femme sentit son cœur couler dans sa poitrine. Au dehors, elle entendait la voix transfigurée de Christine qui menait la foule. La porte céda rapidement. Le prêtre courait presque désormais. Il avait eu des suspicions en voyant mourir les troupeaux. Il avait voulu croire en ses paroissiens, mais le comportement étrange du père de l'enfant lui avait ôté ses doutes. L'homme essayait de le retarder. Il était peut-être déjà trop tard. Enfin, au milieu de l'orage le plus violent qu'ait connu les Alpes, il arriva en vue du croisement. Le cavalier vert était là, dans l'œil du cyclone, et la silhouette échevelée de Christine lui faisait face, prête à lui tendre l'enfant. Sans la moindre peur, le prêtre se précipita vers le diable et jeta un filet d'eau bénite dans sa direction et celle de la femme. Hurlant pour se faire entendre, il donna le sacrement du baptême à l'enfant. Le diable s'enfuit dans la nuit et Christine poussa un cri perçant alors que l'eau la touchait en plein visage. Son corps crissa comme un fer chauffé à blanc plongé dans l'eau. Fuma, trembla, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une énorme araignée à sa place, posée sur l'enfant. Un venin démoniaque dégoulinait de ses crochets, et son corps poilu gonflait, et gonflait jusqu'à atteindre la taille d'un chat monstrueux. Une haine délirante exorbitait ses yeux fixés sur le prêtre. Celui-ci n'hésita pas. Il plongea sa main entre les longues pattes et attrapa l'enfant. Une douleur glacée le frappa, mais il n'y fit pas attention. Courant aussi vite que ses jambes le lui permettaient, il atteignit la maison de la jeune mère. Elle avait perdu connaissance quand on lui avait arraché son enfant, et son retour la ramena à la vie. Elle eut tout juste le temps de caresser ses cheveux fins, de murmurer son nom, avant que le venin de l'araignée n'arrache son fils à la vie. Le prêtre recommanda son âme à Dieu, puis rentra chez lui. La fièvre commença à le prendre. Il tremblait. L'homme remonta sa manche. Sur son bras palpitaient des bubons noirs prêts à éclater. Il pensa une dernière fois aux âmes qu'il n'avait pas su sauver et s'effondra. Le lendemain, un garçon de ferme arriva au village, pétrifié. Il fallut un long moment pour lui arracher quelques mots qui aient du sens. Sur la route, juste avant l'aube, il avait trouvé Hans, le père du nouveau-né. Son père était jeté au sol dans une position inhumaine et couvert de bubons noirs purulents. Sur lui, comme un chat acculé, l'araignée sifflait, énorme, noire. On apprit plus tard que le prêtre, le brave homme qui, à lui tout seul, avait tenu le diable à distance, était mort dans son lit, couvert des mêmes pustules. C'était un beau jour pour les récoltes. Aucun paysan n'alla au champ. Les jours qui suivirent furent encore pires que tout ce que le village avait connu. On ne pouvait se prémunir contre l'araignée. Que les paysans se calfeutrent, ferment portes, fenêtres, elle était déjà dans la maison. Qu'ils fuient, elle surgissait de l'herbe sous leurs pieds. Ses crochets perçaient la chair d'une douleur atroce, et la mort suivait de près les bubons qui apparaissaient alors. Aucune famille n'était épargnée. L'araignée emportait enfants, parents, vieillards. Il n'y eut qu'une maison qu'elle ne visita pas, celle de la jeune femme. C'était aussi celle de Christine, car leur mari avait été frère. Mais le mari de Christine ne lui échappa pas pour autant. Il eut la mort la plus horrible, la plus haineuse. On retrouva son corps dans un champ, brisé. Les os se tordaient dans des angles impossibles, et les ecchymoses qui se joignaient aux bubons permettaient à peine de reconnaître l'homme. L'araignée avait déchaîné sur lui toute sa rancœur, sa haine, sa frustration. Même au château, on souffrait de la malédiction. L'araignée n'y était pas venue, mais le bétail, les chevaux, avaient connu la visite de ses filles. Les chevaliers pressaient Hans von Stoffeln de confronter les villageois, de voir quelle sorcellerie était à l'œuvre, mais nul n'osait s'aventurer au village. Il y avait parmi eux, toutefois, un jeune chevalier de Pologne, qui était toujours le premier à parler de ses exploits et s'était montré le plus cruel envers les villageois pendant la construction du château. Il se moqua des chevaliers et prit le chemin du village. Son armure couvrait tout son corps et son cheval était bardé comme pour la guerre. À son côté pendait sa lance, son épée. À son poing serré se tenait son aigle, et les meilleurs limiers couraient autour de lui. Quand il arriva au village, il ôta le capuchon de son rapace, qui poussa un cri strident et s'enfuit à tire-d'aile. Les chiens se dispersèrent en couinant, et il ne les revit pas. Lui seul ne pouvait voir l'araignée juchée sur son casque. Il interrogea les villageois qu'il croisait, mais ceux-ci fouillaient en criant dès qu'il s'approchait. Il répéta sa question de porte en porte, toujours plus furieux, hurlant de façon démente à mesure que l'araignée faisait fondre son casque, perçait son crâne. On le retrouva dans le fond d'un ravin. Hans von Stoffeln se mit alors en quête d'un prêtre, et à force de promesses d'argent, finit par en trouver un. L'homme s'arma des outils sacrés, mais n'entra pas en prière comme l'avait fait le prêtre du village. Non, auprès des chevaliers, il mena grand train, ne compta pas les verres de vin et s'empiffra de viande d'ours. Vint un banquet où chacun racontait, encore une fois, ses grands faits d'armes en terre païenne. D'un coup, la conversation s'étrangla dans toutes les gorges, à part celle de Hans von Stoffeln, qui continuait à braire à propos d'hérétiques qu'il avait exécutés en masse. Sur sa tête était perchée l'araignée. Elle bondit sur la table, courut entre les invités et sauta au visage du prêtre, plantant ses crochets dans ses yeux, son nez, ses joues. Il fut le seul à ne pas mourir du mal noir qui saisit tous les autres convives. Lui se vida simplement de son sang. Pendant ce temps, la jeune femme priait pour que son enfant, celui qui lui restait, ne soit pas touché par la bête. Elle gardait la foi étaient persuadés qu'il était possible de se débarrasser de ce fléau. D'aucuns avaient tenté d'écraser l'araignée, mais elle était trop vive. Elle échappait aux gourdins, aux marteaux, et si on l'attrapait, le venin qui remontait dans le bras ôtait très vite toute force. Mais la jeune femme avait entendu des légendes, des histoires d'hommes saints qui avaient réussi à enfermer des démons, à les sceller pour que, même vivants, ils ne puissent plus causer de mal. Ses yeux se posèrent sur son fils, un des derniers enfants du village que l'araignée n'ait pas visité. Elle attrapa un gros clou de fer et creusa un trou dans le montant de la fenêtre, à côté d'elle. Quand elle fut satisfaite, elle s'assura bien que le clou rebouchait complètement le trou, puis attendit. Elle veilla son fils avec une angoisse qui lui rongeait les entrailles, mais le sommeil finit par la surprendre. Ses rêves étaient sombres, emplis de terribles créatures. Soudain, du fond de ses songes, une voix lui cria de se réveiller, que l'ennemi était là. Elle ouvrit les yeux en sursaut. L'araignée était là, ses longues pattes velues emmêlées dans les boucles d'or de l'enfant, toujours endormi. Les crochets étaient à un doigt de son front. Sans hésiter, la mère agrippa l'araignée. La créature fela, s'agita en tous sens. Son contact était aussi brûlant que du fer en fusion. Et dans son esprit, la jeune femme ne pensait qu'à son enfant et récitait toutes les prières qu'elle connaissait. Les crochets trouèrent sa chair, encore et encore. La douleur était ignoble. Tout le corps de la mère se révulsait, suppliait de lâcher la créature. Mais elle ne lâcha pas. Péniblement, elle força l'araignée à rentrer dans le trou, puis enfonça le clou à grands coups de marteau. Dans le montant, une tempête se déchaînait, secouait la maison jusque dans ses fondations. Mais le clou tint bon. La mère remercia le Seigneur d'avoir épargné son enfant. Elle versa une unique larme, puis mourut de la même mort que les autres. La paix revint alors dans la vallée, et l'araignée resta enfermée dans le montant de la fenêtre. Le récit de ce soir est pseudo-historique. Il se situe pendant la première vague de Grande Peste, et Hans von Stoffeln était vraiment un seigneur de la région. Quoique, généralement, dans les textes, il soit plutôt présenté comme un seigneur bon, tolérant, et à l'écoute de son peuple. Mais bon, ce ne sont pas les paysans qui écrivent l'histoire. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Biljana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on reprend le Mahabharata pour l'épisode promis il y a un peu trop longtemps.